bien accompagné, c'est tellement mieux.
Mais pourquoi les chaises sont surélevées ici? Je comprends pas. Attends un petit peu.
Parce qu'on est des grandes personnes.
Un petit coup, ben oui, c'est justement un petit coup là.
Mais non, mais je pense que c'est un effet de tes cœurs.
Ouais, mes cuisses y rentrent. Mais Reg, il est plus grand que moi. Denis est plus grand que moi. Puis les deux, ils mettent le siège comme si ils voulaient avoir la tête au plafond.
Mais c'est normal.
Pourquoi?
Ben moi aussi, je suis très grande. Puis je te confirme que t'aimes pas ça être assis à terre quand t'es grand. T'as besoin d'avoir l'impression d'être normal. Fait que tu montes ta chaise pour que tes pieds pendent toi aussi.
OK, c'est ça.
Oui.
Ça se peut que ce soit ça. Mais moi, si j'embarque sur la chaise à Reg...
T'as de la misère à monter.
Je suis pas capable de rentrer mes cuisses en dessous de la console.
Ouais.
Mais je pense que c'est votre sentiment de supériorité. Là. Vous voulez conserver votre sentiment de supériorité. Il y a même des gens qui s'achètent. J'ai vu ça passer sur les internets. Donc, si j'ai vu ça passer sur les internets, c'est que c'est vrai.
Toujours.
Des gens qui s'achètent des rehausseurs pour mettre dans les chaussures.
Ah, mon Dieu.
T'es capable d'aller chercher un genre de pouce, deux pouces de plus.
C'est des grosses semelles épaisses que tu mets dans le fond de ton soulier.
Savez-vous quoi? Si vous mesurez 5 pieds puis vous voulez débuter votre... Votre vie sexuelle à 30 ans, je comprends que vous allez chercher avec vos chaussures un petit 5-6 pouces de plus. Là.
Non, mais moi, je saisis ça parce qu'on peut tout plaider coupable à ce niveau-là.
Non, mais quand tu mesures 5 pieds, c'est tough,
ben oui. Ben, ça dépend. Il y en a qui aiment ça, les short kings.
Ah oui? Levez la main?
Ben non, mais je pense à un couple. Marco Estrada puis sa blonde, là. Tania, c'est ça?
Ouais,
à travers le Saguenay en radio.
Marco Estrada, il est plus large que grand. Il y a des trucs pour compenser puis il n'est pas à 5 pieds. Marco Estrada, il est autour de 5 et 7, 5 et 8, là.
Ben non.
Ben oui.
Ben non.
En tout cas, je peux l'appeler, là, mais...
Il me semble qu'il est petit, il me semble que je peux m'accoter
sur
sa tête.
C'est parce qu'il est très large, c'est pour ça que tu as l'impression qu'il est petit, mais il est autour de 5 et 7, 5 et 8, Marco Estrada. Il est pas... je suis pas très plus... Moi, j'étais à 5 et 10.
Mais il y a pas beaucoup de gars qui mesurent 5 pieds, là.
Oui, il y en a beaucoup.
C'est plus rare,
des 5 et 2, 5 et 3, 5 et 4, il y en a énormément. Puis quand tu jases un peu avec eux autres, là... S'il tombe célibataire, là, tu trouves une fille sur ses réseaux sociaux, là, ses réseaux de rencontres, là, c'est tough. Puis il faut que tu le dises d'avance. Puis les gars, des fois, ils décident de le cacher. Puis là, ils arrivent à la date. Puis quand ils se lèvent debout à la fin du repas,
Mais je dis que c'est épouvantable. Mais en même temps, je dois plaider coupable. C'est pas une question de « j'aime pas les gars qui sont petits ». Je pense que les filles qui n'aiment pas les gars plus petits, c'est un problème par rapport à elles-mêmes. Dans le sens que moi, je sais que j'aime les gars qui sont plus grands en général. Puis je dis ça, puis mon chum, on se regarde dans les yeux. Là. Mais j'aime les gars qui sont plus grands parce que je suis une grande fille. Puis j'aime me sentir en sécurité.
T'es à 5 et 10, à peu près 5 et 11?
Moi, je suis 5 et 11.
C'est ça.
Ouais. Ouais. Puis j'aime me sentir comme en sécurité. Fait que j'ai besoin d'au moins quelqu'un qui est ma grandeur. Là, au moins, là, tu comprends?
Un gars de 5 pieds armé, il va te garder plus en sécurité que tu chum. Là.
Non, je comprends ce que tu veux dire. Puis là, on est vraiment dans le gros jugement généralisé.
Oui.
Si je tombe en amour demain matin avec un gars de 5 pieds 5, tu comprends, puis c'est l'homme de ma vie parce que je sais pas, je me sépare de mon chum puis on est dans un monde parallèle. Là. Ben so be it, là. Ce sera ça, tu comprends? Je pense que le côté superficiel, plus jeune, on le considère. Je pense qu'aujourd'hui, ça me dérangerait moins. Est-ce que je serais attirée de nature dans un bar par un 5 et 5? Probablement pas. Je te mentirais de te dire oui. Mais je veux dire, mettons, là, je m'entends vraiment bien avec ce gars-là, tu comprends? Puis les années passent, puis on est de même, lui puis moi, là, on est fusionnel. Puis un moment donné, je me rends compte que je l'aime. Bien, tu comprends que dans le lit, ça s'arrange, là.
Ça doit être particulier, ben.
Oh,
mais bref.
Yannick!
C'est ça, on salue. Merci, Audrey, de redonner espoir aux hommes petits qui ont de la misère à se trouver des conjointes. Je le sais que c'est pas facile pour eux autres, donc je vous salue, les potes.
Mais l'inverse est aussi grand. C'est pareil pour les grandes filles, là.
Ah, ouais, mais il y a des grands gars.
On a de la misère à se trouver des. Ben,
je pense que le pourcentage de probabilité que toi, tu trouves quelqu'un versus un gars de 5 pieds 2, 5 pieds 3.
On va dire qu'au secondaire, Yann, là, les grandes filles sont seules longtemps en tabarnouche
ben,
parce
que les
gars
poussent,
sont pas développés. C'est triste, c'est pas possible.
Faut que tu laisses les gars pousser. Là. Moi, je m'en rappelais parce que quand j'étais jeune, la plupart des filles étaient plus grandes que moi.
Ouais.
Puis après ça, je les ai rattrapées puis je les ai dépassées. Mais ça m'a sauté d'en face quand il y a des petites filles qui jouent dans les équipes de hockey de gars.
Mm-hmm.
sont toutes plus grandes, ouais, et plus bâties que, ben, les, oui, gars pour la
on
plupart.
On se développe plus vite.
Ouais,
c'est épouvantable, ça, quand tu vas être en couple jeune, là, puis que t'as tous tes amis là, qui font 5 pieds, eux autres, ils ont un petit chum. Toi, personne ne veut rien savoir de toi parce que t'as une tête de plus que tout le monde.
Ouais, nous autres, on en avait une au secondaire, on l'appelait la Grand-Parche.
Ah, c'est ça. Mais tu viens de prouver mon point.
C'est une maudite belle fille, on l'appelait la Grand-Parche, puis elle a une carrière. Hey, je me rappelle pas de son nom parce que sinon, je te le dirais, là. Mais elle a une carrière, elle a eu une carrière longtemps de mannequin, là.
Ah, mon Dieu, OK.
Ça a commencé à petite échelle à Québec, dans un centre d'achat, là. Elle faisait des défilés.
Ouais, ouais.
Puis après ça, elle est rentrée pour l'agence. C'est-tu l'agence Caractère?
Ça se peut.
Puis après ça, elle a changé d'agence. Puis elle a travaillé aux États-Unis pendant des années et des années.
Ouais, c'est une fille. Mais parce qu'elle était grande, est-ce qu'elle avait un chum ou les gars s'essayaient pas?
Je pense qu'elle sortait souvent avec des gars plus petits. Mais c'était notre chum de fille, on l'appelait la Grand-Parche. Mais tabarouette, j'ai oublié son nom.
Notre chum de fille, pauvre petite, on la salue. Hein?
Ah oui.
C'était ton ami, mais tu t'en souviens pas, ça t'a marqué.
On jouait. Hey, comment ça s'appelait? Aidez-moi, 418-971-1021, 418-971-1021. Je t'ai dit hier, à toi ou à Pascal, que j'avais été faire quelques semaines à Samuel de Champlain à Beauport, à l'école secondaire. Parce que j'avais de la misère à Cardinal Roy.
C'était Pascal.
Ouais,
les
profs n'étaient pas assez endurants.
Ah, OK.
Fait que je jouais à Samuel de Champlain. C'était une table. C'était en rectangle. Puis c'était des pastilles de bois. Puis t'essayais de pogner l'autre pastille de bois qui était à l'autre bout. Ça s'appelait comment, ce jeu-là?
Tu penses-tu du hockey sur table,
non,
comme dans les
arcades?
Non,
le hockey sur table, je suis pas vite, mais d'après moi, je l'aurais eu au départ. C'était un autre jeu. C'était avec des pastilles de bois. C'est une grande table rectangulaire. Puis tout le monde jouait à ça, là.
OK, bien 88-971-1009, tu vois, moi, ça me dit absolument rien. Nous autres, on joue au ballon poire.
Ça existe. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider par texte?
Mississippi. Oh,
Mississippi. Merci à Sébastien qui m'écrit sur mon Messenger.
Hey, ça rentre en tabarnouche par texte.
Ça, là, ça existe ça encore, des tables de Mississippi? C'était cool, ça.
Écoute, je vais googler parce que moi, tu vois, j'ai jamais joué à ça. Je sais pas si c'est une question de génération, là. Ah, ben oui. Oui, ça existe encore.
Ah ouais?
Ça se vend encore.
T'as jamais joué à ça?
Toujours, j'ai jamais joué à ça. Canadian Tire, tu peux t'en acheter une de 9 pieds intérieurs, si tu veux.
Il y a un auditeur qui écrit « Merci Audrey de nous donner espoir. Un gars de 5 à 5 se sentirait en sécurité avec une Audrey de 5 et 11. »
Ouais, je saisis. Je pense que dans nos petites têtes de princesse... C'est con, hein, dans le fond. C'est vraiment juste...
Ouais. Il y a des tables de Mississippi en vente sur Marketplace à ce moment-là. Patricia qui me dit il y en a au Patro à Lévis, des tables de Mississippi.
Bon, tu vois, ça existe comme du monde encore.
Fait qu'on jouait à ça sur l'heure du midi. Plutôt, on jouait aux billes, là, quand on était au primaire.
Ça, j'ai joué
énormément. On jouait aux billes. Puis ouais, les billes, là, c'était mon univers. Puis j'avais mon sac de billes. Puis je regardais mes billes comme si ma vie en dépendait. Ouais. Si j'ai quitté...
T'avais celles qui valaient beaucoup, celles qui valaient moins, les grosses, les petites.
Ouais, t'avais des jumbo, ouais, aussi. Puis là, tu misais ta bille sur un trou que t'avais fait avec un de tes chums. Puis on était une gang, là. Des fois, on était 10-12, puis on jouait notre game de bille.
C'est capoté, pareil.
C'est capoté. Là, quand t'en as un qui torchait tout le monde, il repartait, là, des fois, avec des billes dans ses poches, plus son sac bien plein.
Mais ça a traversé les générations parce qu'il y a des jeunes encore qui jouent à ça, là. À ce jour.
Aux billes?
Ben oui, on vend encore des billes.
Moi, mes gars, c'est pas ça pantoute. Mes gars sont vraiment... Mon plus jeune est avec ses cartes de Pokémon. Des fois, il va amener son album de cartes d'hockey, là. Mais mon plus jeune, il est vraiment jamé ses cartes Pokémon.
Moi, ça, tu vois, il y a comme eu un creux au niveau des Pokémon.
Ouais. Là. Puis là, un moment donné...
c'était Bakugan.
Ouais. Puis c'est drôle parce qu'il a compris très vite que... Tu sais, il me demande des fois des affaires à acheter sur ces jeux vidéo, là. Les fameux skins, je sais pas si tu connais ça. Là. Mais
non,
mettons,
c'est pour ton personnage.
Tu t'achètes un personnage ou tu peux habiller ton personnage,
okay,
et tout,
ouais,
ça.
Ouais, ouais.
Puis là, je dis, tu sais, Isaac, ça, là, ça te reviendra jamais dans tes poches. Jamais, jamais, jamais. C'est une belle passion, les jeux vidéo, c'est cool. Mais quand tu investis dans les jeux vidéo sur tes personnages, si un jour tu arrêtes de jouer à ça, ça reviendra jamais dans tes poches. Tu récupéreras jamais ton argent, qui est en fait l'argent de papa.
Ah, c'est pour ça que tu fais cette éducation-là.
Mais pour tes cartes, que ce soit tes cartes de hockey que tu collectionnes ou que ce soit tes cartes Pokémon...
Ça a une valeur.
Si tu en prends soin, si tu les mets dans un endroit où tu n'es pas susceptible de te faire voler, ça a une grosse valeur. Puis il y a une boutique, là, ils ne me payent pas pour vous dire ça, là, mais il y a une boutique qui est absolument formidable au marché Jean Talon de Charlebourg où... Tu rentres dans la boutique, c'est juste ça. Des trucs pour collectionneurs, des cartes de hockey, des cartes Pokémon et tout ça. Puis quand mon gars a vu qu'il y avait des cartes Pokémon en vente à 500$,
là, il a réalisé.
Il a switché vite sur les cartes Pokémon, puis il me demande plus d'argent pour ses maudits jeux vidéo, tu sais.
Là, maintenant, il collectionne parce qu'il sait que ça peut être un investissement.
Exact.
C'est fou, hein?
Fait qu'il amène ses cartes de moindre valeur, il les amène à l'école, puis il joue avec ses amis, mais ses cartes de valeur, puis il va voir le prix des cartes sur les réseaux, sur Internet. C'est vraiment, sont vraiment wise, les jeunes. Puis je me demande si c'est vraiment moi le père de cet enfant-là, mais ces cartes qui valent plus qu'une pièce, mettons, il les met dans un album, puis il dit ça, papa, ça va être plus tard pour acheter ma maison.
Mais voyons, il est bien cute.
Hein? C'est capoté raide.
Je sais pas s'il va être capable de les vendre, par exemple.
Probablement.
C'est des fois la nostalgie, là.
Probablement. Tu sais, à un moment donné, tu passes à d'autres choses. Moi, je te l'ai dit, c'est à toi que je disais ça l'autre jour. Moi, je me souviens que j'avais 3 sacs de poubelles de macarons. Fouille-moi pourquoi je collectionnais ça.
Des macarons.
Des épinglettes aussi. On allait au Pee-wee.
T'as fait de l'argent avec ça?
Pee-wee du carnaval. Ben non, je me suis fait,
okay,
me suis fait voler.
Bizarre.
On allait au Pee-wee du carnaval, puis là, il y avait comme un marché d'épinglettes. Puis là, t'échangeais tes vieilles épinglettes contre des nouvelles. Il y avait comme un marché d'épinglettes, mais plus j'ai vieilli, plus je me suis dit, c'est fou que des épinglettes puis des macarons.
Ah, voilà, tu sais, j'étais un peu nostalgique.
Ça, les macarons, j'avais donné ça à, je pense, mon petit voisin là, qui tripait à mort, puis probablement que ça s'est rendu au vidange. Là. Mais ça, on faisait ça.
Mais j'avais pas ça, moi, sérieux, j'ai pas collectionné grand-chose. Bakugan, c'est tu sais quoi?
Bakugan?
Ouais.
Non.
C'est comme des petits... C'est des cartes aussi, mais c'est genre des... c'était comme des espèces de petits ronds, là, puis ça se transformait, cette affaire-là. Là. C'était des bibittes. C'est une émission Bakugan. Sur Google, tu vas probablement reconnaître ça. Là. Nous autres, c'était ça, plus que Pokémon, mettons.
Ouais.
Mais tu sais, moi, j'en avais quelques-unes juste pour être cool, pour être dans la gang, mais je collectionnais pas en soi. Mon frère, par exemple, collectionnait les cartes d'Hockey Tempête. Lui, il avait des gros cartables là, avec des espèces d'acétates dans lesquels il mettait ça, il les protégeait, il en prenait soin, puis il tripait là-dessus. Mais on n'a jamais été collectionneur chez nous, vraiment, à part mes billes, moi, là.
Fait que c'est ça. Mon plus jeune, c'est vraiment les cartes Pokémon. Puis mon plus vieux, lui, il a rencontré un de mes chums qui, lui, a des voitures exotiques. Et à partir du moment où il a dit à mon plus vieux, si tu t'achètes ce véhicule-là, il perd pas de la valeur. Il va en prendre avec le temps. Bien, l'objectif de mon plus vieux, c'est de s'acheter une voiture exotique.
Ben voyons!
Puis peut-être même 2, puis 3, puis 4. Là, j'espère qu'il va aller longtemps à l'école. Mais il veut faire ça. Il dit, moi, mon trip, ça va être ça. Puis il a découvert les voitures exotiques au travers des jeux vidéo.
C'est capoté pareil.
Ah ouais, ça les fait.
Il développe ses intérêts.
C'est ça. Moi, je veux juste qu'il y ait du plaisir. Mais s'ils sont capables de déjà, à leur âge, commencer à se dire, OK, si je dépense mon argent là-dedans, j'aurai pas de retour sur mon investissement. Tu sais, moi, je pensais que j'allais avoir un retour sur mon investissement au Palladium, au Maurice, au Dagobert dans le temps.
Mais ton bonheur!
Finalement, les propriétaires ont tout vendu.
T'as pas une scène,
ils
hein?
m'ont pas redonné mon argent, alors que ça m'appartenait à peu près à 33%. La bâtisse avec l'argent que j'ai mis là-dedans. Bon. Mais très jeune, ils ont été éduqués. Contrairement à moi, j'ai jamais été éduqué là-dessus.
Mais c'est bon que tu vois ça avec eux, parce que moi, c'est quelque chose qui a manqué beaucoup dans mon éducation. Tu sais, dans le sens que mes parents m'ont montré tellement d'affaires, mais tout ce qui est gestion d'argent et où je ne l'ai pas absorbé, je sais pas, là. Mais moi, j'ai toujours été tellement mauvaise avec ça. Puis à l'école, je me souviens qu'à un moment donné, on a eu comme un petit cours d'une heure, là, ces cartes de crédit. Là. Mais tu sais, ton cerveau n'est pas assez développé pour tout comprendre ça. Là.
Ouais.
Puis j'ai tellement mal géré mon argent vieillissant. Là. C'est récent là, que j'ai un planificateur financier, puis que je place, puis que je m'occupe de mes affaires. Là. Fait que je trouve ça hot que tes gars déjà peuvent comprendre un peu la valeur de l'argent puis ce principe-là. Mon chum, c'est ça, là. Mon chum a commencé à travailler à 12 ans au petit dépanneur du village. Puis lui, là, chez eux, c'était « si t'as pas l'argent cash, tu peux pas te le payer, tu peux pas l'acheter. » Fait que là, toujours, il a toujours été éduqué sans crédit, sans... C'était vraiment « travaille pour ce que t'as, un coup que tu l'as, tu pourras te l'acheter. » Puis écoute, il a mis de côté, il a appris « c'est pas possible ». La grosse différence entre nous deux, d'ailleurs, aujourd'hui. Mais je trouve ça hâte que tes gars aient cet intérêt-là.
Oui, puis c'est pas moi qui l'aurais inculqué. C'est juste que quand ils m'ont posé des questions, j'aurais dit « qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est de l'argent perdu, patati patata, puis on en a jasé. » Mais lui, mon plus jeune, ça a vraiment été le déclic. Quand il a vu qu'il y avait des cartes Pokémon qui pouvaient valoir 500 1000, quelqu'un qui m'écrit, il y en a à 5 000$, mais c'est parce que quand tu vas au marché Jean Talon, tu le vois dans le présentoir le prix. C'est écrit 500$ dessus, ça te saute d'en face. Il a dit, oh boy, ça veut dire que je pourrais peut-être un jour m'acheter une maison avec toute la collection de mes cartes Pokémon. Il y a des auditeurs qui m'écrivent en disant, Yann, j'ai fait des collections, moi, de cartes d'hockey, de cartes Pokémon, de cartes Magic. Je suis pas capable de m'en débarrasser aujourd'hui.
Ouais, nostalgie.
J'ai une valeur sentimentale par rapport à ces cartes-là. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Mettons que tu te fais fesser dans la rue, puis tu meurs, là. Là, tu vas faire quoi avec tes cartes, là?
Ben, tes Lego prochain.
Ouais, non, non, moi, c'est sûr et certain que je vendrais ça, puis je ferais le tour du monde. Si t'es capable de pas travailler pendant 6 mois, tu vends ça, t'es capable de pas travailler pendant 6 mois,
mais je pense que ça vient plus tard.
Le tour du monde.
Ouais, ça vient plus tard. Faut que tu sois capable d'avoir un détachement. Faut pas que tu sois émotif.
Ouais, ah, je sais. J'étais un grand émotif, Audrey. Tout le monde sait ça.
Ben oui.
Hey, j'ai des trucs à te jaser, cher ami. Tiens, je vais commencer avec ça. J'aime beaucoup parler de la fraude. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on peut se transmettre des idées ensemble, puis des nouveautés au niveau des fraudes qui vont faire en sorte qu'on va être prévenu, on va prévenir les gens qui sont autour de nous.
Ah oui, parce que
aussi.
Les malfaiteurs se renouvellent constamment.
T'as déjà été en recherche d'emploi, Audrey?
Ben oui.
Parfait. Quand t'es en recherche d'emploi puis t'es embauché, qu'est-ce que tu dois fournir comme documentation?
Ben, ton numéro d'assurance sociale.
Numéro d'assurance sociale.
Ton spécimen chèque.
Ta fête.
Ouais.
C'est quand?
Oui, exactement. Ton adresse, toutes tes informations. Là.
Ton adresse, toute l'information qui est hyper pertinente pour du vol d'identité. Puis là, de ce qu'on se rend compte dans les dernières années sur les diverses plateformes de recrutement, il y a des gens qui placent avec un but criminel des offres d'emploi.
Parce que tout se passe par Internet maintenant.
Audrey est à Montréal, elle cherche un emploi pour faire du télétravail pour une compagnie d'assurance. Fait que là, toi, tu t'en vas sur un site où ils offrent des emplois. Tu regardes ça, télétravail, compagnie d'assurance. Moi, j'ai 3 ans d'expérience là-dedans. Tu communiques avec le numéro. La personne dit « Parfait, on va faire une entrevue. » Tu fais une entrevue Zoom avec cette personne-là. Ça va super bien. Puis après ça, elle te dit « Il va falloir que tu m'envoies toutes tes informations pour être sûr et certain que quand tu vas tomber sur le payroll, que je puisse t'envoyer ta paye. » Sauf que c'est des fraudeurs qui sont cachés derrière ces entreprises-là.
Mais comment tu fais, tu sais, pour le savoir? C'est ça, moi, qui me fascine. Comment tu fais pour le savoir? C'est tough, là.
Dans le cas que j'ai pogné, bon, il s'agit d'une Montréalaise de 30 ans. Elle a eu un petit doute parce qu'à un moment donné, ils lui ont demandé un papier du gouvernement. Je ne me rappelle pas c'était quoi le papier. Je pense que c'était un genre de... Tu sais, quand il dit, c'est quoi ta dernière ligne de ton dernier rapport d'impôt?
Ouais, 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 ton T4 puis tout là.
Ouais, je me rappelle pas le nom, là, mais il y a un mot spécifique à ça. Puis là, elle a eu un doute. Mais combien de gens ont envoyé ce chiffre-là de la fameuse dernière ligne?
Probablement beaucoup.
De 2024, probablement beaucoup. Puis c'est comme ça que les gens se font voler. Elle a été chanceuse parce qu'il y a quelqu'un qui a essayé d'ouvrir une carte de crédit à son nom pour 45 000 $, puis ça n'a pas été accepté, parce que j'imagine qu'elle n'avait pas les finances nécessaires. Mais quand elle a appelé la police a dit « Oui, mais madame, ils ont essayé d'ouvrir une carte de crédit à votre nom, mais ça n'a pas fonctionné, donc techniquement, vous n'êtes pas fait voler. »
Ils ont
la police, des fois, peut être cave, là, parce qu'ils ont obtenu des informations personnelles et sensibles de façon illégale pour ensuite, pour essayer d'ouvrir un compte avec Visa, exemple. Là, ça a été refusé. Mais il y a un crime quand même qui a été commis. Tu as été trompé et ils t'ont demandé tes informations sensibles pour te faire voler ton identité.
C'est fâchant, Yann, mais la réalité, c'est qu'ils n'ont pas les ressources pour ça et ils n'ont pas le temps. Fait que tu te fraudes, tu déclares une fraude, ils sont contents parce qu'ils accumulent des informations, mais c'est comme, c'est sur le side, ça, là, c'est pas leur priorité, là, tu comprends?
La vie de cotisation, c'est là où ça l'a chicoté un peu quand un employeur demande un avis de cotisation.
Pas normal.
C'est pas normal, effectivement, mais n'en demeure pas moins que tout était legit, là, dans sa tête. Tu sais, c'est la personne la rappelle, ah, vous êtes une candidature intéressante, je trouve ça incroyable, parfait, qu'est-ce que vous faites? Vous finissez votre emploi, ouais, c'est bon. Est-ce qu'on peut se rencontrer via Zoom? J'aimerais ça savoir, bon, comment, tu sais, en savoir un peu plus sur votre personnalité. Tu fais une entrevue d'une heure, tu te doutes de rien, la personne est sweet à la mort. Finalement, tu apprends que tu es embauché, puis elle te demande tes papiers, tu y envoies, puis tu te fais frauder.
C'est capoté.
Faut swatcher en sacrifice.
Ben non, mais n'importe qui peut se faire prendre, là. Moi, ça m'est arrivé la semaine passée, on en a parlé dans le retour, là, mais c'est ridicule comme à un moment donné. C'est parce qu'il y a un moment où tu es méfiant, tu poses des questions, t'es méfiant. Mais à un moment donné, tu commences à te sentir con de l'être trop. T'sais, tu te dis, ben, des buzz, là, c'est pas tout le monde qui est méchant, là. Puis, ben, là, tu te fais ramasser, t'sais. Mais moi, quand j'ai appelé la police la semaine passée, c'est exactement ce qu'on m'a dit, là. Puis la banque, pareil, là, si vous saviez à quel point... Tout le monde se fait pogner, là. T'es pas nécessairement vulnérable pour te faire prendre aujourd'hui, là. C'est tellement facile de faire des interfaces de sites, c'est tellement facile de rendre les formations crédibles. L'intelligence artificielle est super bien utilisée. Je veux dire, moi, d'un matin, là, je peux me faire passer pour un employeur puis faire une entrevue d'une heure, là. Exact. Pas de problème. Là.
Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça. Fait qu'en se jasant de ce type de fraude-là, ben, si vous voulez en jaser avec vos amis pour les prévenir, ce serait à faire aujourd'hui parce que c'est courant, semblerait-il. Est-ce que c'est les plus vieux ou les plus jeunes qui fréquentent les cinémas?
Eh mon Dieu! Les plus vieux.
Ça serait les plus vieux dans ta tête.
Dans ma tête, maintenant.
Moi, j'étais un gars qui allait régulièrement au cinéma anciennement. Je dépensais peut-être un genre de 25$ par semaine au cinéma. J'allais tout le temps voir un film. Je suis célibataire, fait que j'avais bien du plaisir. Par la suite, je tombais en couple ou des fois, parce que ça coûte cher amener ta bonne femme, des fois, on allait au cinéma, mais j'ai toujours apprécié le but de se déplacer,
ouais.
Arriver là, payer ton billet. Après ça, t'as les concessions, acheter du popcorn,
ouais.
Prendre une petite liqueur, puis aller t'asseoir, jaser, des jujubes. Mm. Il y a l'arcade aussi. J'ai toujours aimé ce principe-là. Moi, les premières places où j'allais voir des films, c'était Cinéma Saint-Roch. C'est juste en face de où était situé, où est situé Laubrivière actuellement. Ouais. Ben, en face, t'as les cinémas. Qui était là, au centre-ville de Québec. Après ça, j'avais le Cinéparc Beauport.
Oui, très ça, cool, Cinéparc, là. Comment ça revient?
Cinéma Canardière. Il y avait un cinéma aux Galeries de la Canardière. Là, aujourd'hui, il n'y a plus ça, mais il y avait ça. Il y avait plein de beaux spots pour aller au cinéma, puis j'ai toujours aimé ça. Puis contrairement à ce qu'on peut penser, c'est les jeunes qui vont le plus au cinéma.
Encore.
À ce jour, c'est les jeunes de 18 à 35 ans,
de
18 à 29 ans, qui fréquentent le plus les salles de cinéma.
Jeune famille, c'est pour ça que je saisis. Peut-être les premières dates, oui. C'est comme moi, je suis tellement allée plus jeune. Puis je sais pas si c'est le streaming, le fait qu'on s'équipe mieux à la maison, j'ai aucune idée. C'est comme si j'y allais vraiment moins dans les dernières années.
Moi, je pense que les gars et les filles de 30 ans et plus qui débutent leur famille, là, la raison pour laquelle ils vont plus au cinéma, c'est que ça coûte une fortune.
Ah, ça, c'est une affaire, par exemple. Moi, j'allais les mardis pauvres, que j'aimais bien appeler, parce que tu sauvais des sous.
C'est le mardi des pauvres.
Même ça, là, c'est pour ton billet, mais pas pour ta slotch, puis ton popcorn, puis tes bonbons. Ça monte vite en tabarnouche.
Exact. Fait que je pense que le coût du cinéma fait en sorte que les plus vieux, les jeunes familles, décident d'y aller peut-être un peu moins souvent qu'avant. Quand tu es célibataire, puis tu vas au cinéma, ça te coûte 25$. C'est encore correct. Mettons 50$ si tu te prends la bouffe et tout ça. C'est quoi le pourcentage des jeunes entre 18 et 35 ans qui vont régulièrement au cinéma?
Ben, je vais dire genre 40%.
C'est 78%.
Tabarnou, je suis tombé dans le champ.
T'es pas là pantoute.
Fait que je suis vraiment... Ça veut dire que je suis pas dans ces chiffres-là malgré mon âge. Là.
Chez les 60 à 69 ans... C'est quoi le pourcentage?
Mais là, celui-là, moi, j'allais dire qu'il était élevé, mais là, je vais descendre. Je vais dire 50.
43%.
43, bon.
Chez les 70 ans et plus?
Ah, ça, je pense qu'on est plus bas, là, genre 26.
36%.
Ah!
Ouais, t'es pas si pire. Chez les 18 à... Mettons, chez les 18 à 29 ans, c'est quoi le type de film que ces jeunes-là vont voir en majorité? C'est-tu... horreur, romance, policier, fantastique, drame, action, comédie.
Je pense que c'est genre action ou horreur.
OK, en action comédie. Ou horreur. Tu sais quoi? J'aurais probablement pas dit ça. Parce que je trouve que c'est une génération un peu mollassonne, là, les 18 à 30
ans.
Oh
mon Dieu, que tu viens de faire vieux, toi, là.
Vous êtes des mollassons.
Et que tu viens de faire boomer.
Notre génération à nous autres, mettons des 30 à 50 ans, là, nous autres, c'est des films d'action.
OK. Puis les mollassons, ils écoutent quoi, eux autres?
Des comédies.
Bon.
Des drames. Des films fantastiques.
Ah, que t'es plein de jugements, tu m'énerves.
Quoi?
Ben là, voyons donc. Son mollasson, il écoute des comédies. Il aime rire.
Ouais.
Il aime réfléchir. Il écoute des drames pour susciter des émotions.
Ouais. Mais il n'y a plus d'acteurs de films d'action très incroyables aujourd'hui. Il reste encore Jason Statham, il reste encore Sylvester Stallone, mais on dirait qu'il est
ça
mort
vieillit,
il fait encore des films.
C'est ça. Je sais pas, hein?
Tom Cruise, il veut faire des films jusqu'à 100 ans.
Oui, mais ça, c'est ta génération.
Schwarzy, oui, mais ma génération. Ta génération à toi, c'était des gars qui ont commencé par des films de danse qui se sont transférés vers des films d'action par la suite.
Ouais. Non, t'as raison.
Fait que comédie chez les jeunes, Génération Molasson. Action, c'est 67 % dans ta catégorie.
Quand même!
Drame, 48 % Fantastique, science-fiction, 49 %. C'est quand même assez élevé. Là. Policier, 39 Romance, 51 % Et hey, ça, quand ta blonde
ça
dit « On va-tu voir un film romantique au cinéma? » Tu dépenses pas de l'argent pour ça.
Franchement.
Vas-y de seul.
Je sais pas, par exemple, mais je suis quand même, hein? Ben, je suis quand même d'accord. C'est parce que pour moi, des films romantiques, c'est des films tristes souvent.
Elle rencontre un millionnaire marié, elle est célibataire.
T'es juste jaloux.
Il tombe en amour, lui trompe sa femme, mais c'est un homme incroyable! Mais si ça arrive dans la vraie vie, par exemple, c'est un crosseur.
Le dernier film que j'ai vu semi-romantique, là, si tu peux l'appeler comme ça au cinéma, ça fait vraiment longtemps, c'est Fifty Shades of Grey quand il était sorti.
Ben c'est ça.
Mais on pensait, t'as-tu déjà vu Fifty Shades?
As-tu déjà été là?
Au cinéma?
Avec aller voir Fifty Shades of Grey?
Non, j'étais avec ma mère, je savais pas que c'était ça.
C'est pour ça que je l'aime, Tchum.
Bon.
Un homme!
Mais as-tu entendu? Je me suis ramassée avec ma mère dans la salle de cinéma à aller regarder Fifty Shades. As-tu déjà vu Fifty Shades?
Non.
Bon, mais c'est ça le problème.
Moi, j'ai vu les impacts de Fifty Shades.
Ouais, mais Fifty Shades, là, c'est quasiment de la porno, là, tu comprends? Mais j'étais avec ma mère. Je pensais que je m'en allais voir quelque chose de romantique et sans plus.
Pis,
le malaise d'être assis à côté de ta mère pendant que l'autre est boule nue en train de se faire fouetter.
Elle se cachait-tu les yeux?
Ben, on se cachait pas les yeux, mais on se regardait pas, on va dire. Là. On était, on était fixés sur l'écran pour prier que ça finisse.
Hey, moi, j'ai vu les impacts du livre Fifty Shades of Grey à Cancun. OK?
Mais voyons.
Les filles, sur le bord de la piscine, ils lisaient le livre. Les filles, à la plage, ils lisaient le livre. Puis le soir, ils étaient allumés comme des ronds de poêle.
Ben, c'est des bonnes histoires. C'est des bonnes histoires.
Fait que moi, je me promenais, là, j'étais avec mes petites culottes courtes, j'avais un fouet dedans. Mais,
oh, mais, franchement!
Mais, non, mais c'est ma blonde de l'époque, elle dit « Non, toi, tu me quittes pas. » Non, tu restes ici. Là. Il est hors de question que j'aille dormir et que toi, tu ailles te promener, mettons, au bar.
Mais elle voulait donc, parce que les savoir. Femmes étaient...
C'était, vous étiez enragé.
Ah, je sais pas. Ben, non, mais je pense que ça réveille quelque chose.
Il y a probablement des enfants, Fifty Shades of Grey.
Ah, oh, ben peut-être. Il y a beaucoup de fantaisie là-dedans. Là.
Oui.
L'espèce de côté mystérieux, de dépasser les limites, de il change pour elle.
OK. Hey, maintenant, on va y aller avec les personnes âgées. 70 ans et plus.
Oui.
Sont combien à regarder les films d'action?
70 ans et plus, on va dire un bon 40.
C'est 62
%. Hein?
Les comédies?
Ah, ça doit être vraiment bas, là.
C'est moins, c'est 61 %. Pas très loin derrière. Après ça, chez les. Mettons, entre 40 et 49 ans, les films d'action sont premiers aussi. Il y a la comédie qui arrive deuxième, les drames qui arrivent 44e, science-fiction 5. Non, excuse-moi, science-fiction arrive troisième, drame arrive quatrième.
Bon, fait que drame n'est pas populaire chez les plus âgés.
Non, c'est ça.
Et de Notebook?
On a assez de vous autres pour du drama.
Ah, oh, t'es épouvantable. C'est dur, hein, les femmes, Yann.
Ah, c'est pas facile.
T'aurais dû être aux hommes, ça aurait été plus simple.
C'est, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. J'ai des chums qui sont aux chums et ils ont une vie assez particulière. Puis je suis pas sûr que j'aurais l'énergie pour vivre leur vie.
Tu penses?
Eh, sacré.
En même temps, ça doit juste être une question de personnalité puis de match au final.
Ouais, mais ouais, c'est ça. Ben, c'est, eux autres, en tout cas, c'est pas une étude scientifique. Là. Moi, j'ai un couple très proche. Puis je regarde aller puis je me dis, je serais pas capable de les suivre.
C'est trop pour moi.
Non, non, tu sais, c'est à un moment donné, là, il est, mettons...
Il y a du caractère, là?
Le lundi, tu sais, je me couche à 21h, 22h, puis des fois, je m'endors vers minuit, 1h, mais
ils sont encore debout?
Eux autres, c'est...
C'est la rumba.
Il n'y a aucun problème.
Ah ouais?
Du
yeah.
Madonna à côté, dans la maison.
Arrête-toi!
Ah ouais, c'est parti.
Mais là, ils sont funky, là, c'est au-delà du couple.
Ah ouais, puis ils trouvaient ça trop plate à Québec. Ils trouvaient ça trop plate en Beauce, puis on sacré le cul au Mexique, là.
Tabarnouche-moi du monde de même qui suivent leurs rêves. Là. Je trouve ça malade mental.
Faut du télétravail
wow.
Pour des entreprises au Québec. Ils sont au Mexique. Ils se sont achetés une villa, 300 000 piastres. C'est immense. Puis avec les travailleurs mexicains, c'est pas des gens qui font du 150 000 par année. Ouais. Ils ont trois personnes qui travaillent temps plein pour eux. Pour s'occuper du terrain, pour s'occuper de la maison,
mais
pour
voyons.
S'occuper des repas.
Puis... J'ai de la misère à finir ma semaine puis manger comme du monde.
Puis, juste des fois, quand ils me parlent sur Messenger de leurs activités là, qu'ils ont faites cette semaine, ça me brûle aussi.
Oh my God!
Ils me parlent, j'ai le goût d'aller me coucher.
Mais c'est du monde actif et du monde chanceux.
Exact. Oui,
ils ont fait leur chance.
Hey, Bob Bissonnette s'en vient avec Hockey dans la rue sur les zones de boulevard. Les news de Max et les sports de Max s'en viennent dans les prochaines secondes. Sinon, Qui on reçoit après la pause?
On reçoit deux individus, deux invités. Frédéric Keck, que vous avez déjà entendu dans l'Open Mic, qui est directeur adjoint partenariat itinérance au CIUSSS de la Capitale-Nationale. Lui, c'est un ancien travailleur de rue, une quinzaine d'années. Il était directement avec les gens dans la rue. Et on a aussi Anthony Vaillancourt, qui est coordonnateur de l'équipe de liaison itinérance au CIUSSS de la Capitale-Nationale. Lui, il est travailleur de rue actif. Donc, on va parler de ce domaine-là, ce métier-là. Ce qu'on rencontre au quotidien, c'est quoi la situation dans la Capitale-Nationale, etc., etc. Fait que si vous avez des questions, 88-971-102, un texto.
10h41, vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1. On est avec vous jusqu'à 14h. Mon nom, c'est Yann Marceau. Son nom à elle, c'est Audrey Pinchot.
Tu t'es pas trompé, bravo.
5 et 11. Une grande fille.
Grand fille, petit gars.
Ce qui se passe avec le soleil, tu me l'as pas ramené, on l'avait hier.
Écoute, j'ai essayé de faire ma job un matin, visiblement, il a pas voulu suivre.
Non.
C'est difficile.
Je ne sais pas dans ton coin quel genre de température il y avait. Moi, j'étais dans le secteur de Val-Bélair hier soir, j'étais chez nous. Puis, il y avait de la vie dans la rue.
Oui,
à 9h le soir, 10h, j'entendais mes voisins sur les terrasses. Je parlais avec quelqu'un, il y a de ça quelques secondes, qui me disait, moi, j'habite dans le secteur de Limoilou, je regardais ce qui se passait sur la 3e avenue. Et ma mère, il y avait des gens qui prenaient une petite bière.
Oh oui, non, mais
sur
c'est
les terrasses.
Sa vie, là.
Ah oui.
Oh oui.
Vraiment. Actuellement, sur Québec, c'est autour de 24 degrés. Avec le facteur humidex, on nous parle d'une température de 30 degrés. Pour aujourd'hui, c'est 40 % de probabilité d'averse, là, si ce n'est pas commencé dans votre secteur. Ça se peut que dans les prochaines minutes, ça arrive. Des risques d'orage pour ce qui est de cet après-midi. Ce soir, cette nuit, ciel dégagé, minimum de 11. Demain, généralement ensoleillé selon Environnement Canada, avec un maximum de 24. Et pour ce qui est du week-end, là, le topo a changé. Peut-être un peu de pluie pour samedi avec un maximum de 19. Et dimanche, gros soleil, maximum de 22.
C'est rare à cette heure-ci, mais il y a déjà des petits problèmes de circulation si vous êtes sur la capitale direction Est en ce moment. À la hauteur d'Henri IV, quelques ralentissements. Laurentienne Sud, vous allez chercher la capitale direction Ouest. C'est au ralenti, évidemment, s'il y a quoi que ce soit d'autre. 88-971-102, texto.
Parfait. Tellement content de le recevoir pour une deuxième fois. Son nom, c'est Frédéric Keck, qui est directeur adjoint partenariat et itinérance au CIUSSS de la Capitale-Nationale. C'est un ancien travailleur de rue. Et Anthony Vaillancourt, qui est avec nous aussi pour une première fois, qui est coordonnateur de l'équipe de liaison itinérance au CIUSSS de la Capitale-Nationale. Bonjour, messieurs. Merci d'être là.
Merci pour l'hospitalité.
Ma blonde a pogné à 2 minutes. On était en train de regarder pour un condo dans le secteur de Saint-Roch. Puis moi, je suis né là. Fait que je suis habitué de voir des affaires des fois qu'on ne voit pas dans le fin fond de Beauport. Et elle m'a fait remarquer qu'il y avait un homme qui était couché le long du métro qui est situé dans le secteur Saint-Roch. Mm-hmm. Il était couché par terre avec une couverture sur la tête. Puis pour moi, j'ai pas eu... Tu sais, moi, c'est juste normal. C'est, oui, c'est de l'itinérance. C'est des gens qui sont sans-abri, des gens qui sont parfois peut-être intoxiqués. Puis là, elle m'a dit... Elle, c'est une infirmière clinicienne. Là, elle avait jamais vu ça de sa vie, à part d'un film. Elle m'a dit, Yann, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vérifie si en dessous de la couverte, le monsieur, il est correct? Puis j'ai réalisé à quel point j'étais comme désensibilisé à ça. Puis à quel point, quand t'arrives avec un œil extérieur, ces gens-là te ramènent un peu sur sur ton territoire. C'est-à-dire, regarde, là, il y a un homme qui est couché, mm-hmm. puis visiblement, ça va pas. Y a-tu des gens qui sont là pour eux? Bien, on va avoir les réponses aujourd'hui, puisqu'on a M. Keck et M. Vaillancourt qui sont avec nous. Est-ce que ça vous arrive souvent d'avoir des gens comme ça qui se disent, mais pourquoi il y a des gens comme ça dans la rue?
Bien, en fait, je pense qu'il y a plus en plus de gens qui se posent des questions par rapport à c'est quoi qui est en train de se passer dans notre région.
Oui.
Parce que, tu sais, on en parlait un petit peu la dernière fois aussi, là, entre il y a 15 ans puis maintenant, là, le phénomène, là, il change, il évolue, oui. puis il prend de l'ampleur. Puis plus il prend de l'ampleur, bien, plus il y a des gens qui réalisent que, hey, ça existe, cette réalité-là. Puis ça peut générer toutes sortes de réactions, là, puis toutes sortes de questionnements aussi, là, mm-hmm. puis des enjeux de cohabitation, des fois des enjeux de, ben, tu sais, beaucoup d'empathie, mais des fois de la peur aussi, de dire, bien, OK, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est-tu sécuritaire? Y a-tu... Donc, c'est un peu tous ces enjeux-là là, qui font surface un peu. Puis là, ben, c'est de voir ben, comment est-ce que nous, comme réseau de la santé, mais d'abord aussi comme région, avec tous les acteurs qui doivent être impliqués au niveau de l'itinérance, ben, comment est-ce qu'on peut avoir un réel impact là, sur ce phénomène-là? Mm. Un, mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, puis deux, agir aussi. Là.
Puis Anthony, y a-tu des gens qui vont regarder justement en dessous de la couverte si le monsieur il est correct pendant qu'il dort sur le trottoir?
Il y a effectivement des gens, j'ai envie de dire que collectivement, on pourrait le faire aussi. Il y a ouais. des gens, c'est toujours un peu sensible de des fois d'aller... On est toujours sur un terrain... sensible à voir est-ce qu'on va déranger quelqu'un,
exact.
Est-ce qu'on va voir quelqu'un qui est peut-être aussi en détresse.
Ou est-ce la personne va réagir envers nous? Je pense que la peur est surtout de là.
Parce que des fois, quand on me réveille trop tôt le dimanche matin, je pars durable. Là. Fait que ça se peut que quelqu'un qui dort sur le trottoir aussi le souhaite.
Quelqu'un qui dort sur le trottoir, peut-être quelqu'un qui a accumulé aussi une dette de sommeil dans les derniers jours, dernières semaines, derniers mois. Donc, la réponse est oui. Il y a des gens qui vont regarder en dessous des couvertes. Il y a plusieurs intervenants de tout azimut. Des travailleurs de rue, il y a des gens qui sont concernés aussi par des bons citoyens qui sont concernés par la situation. Voilà.
Les services qui leur sont offerts à ces gens-là, parce que moi, j'ai grandi avec eux autres, j'ai connu Saint-Roch magané, j'ai connu Saint-Roch, c'est vraiment amélioré, puis là, après ça, ben je retourne à Saint-Roch pour regarder pour des condos dans le coin, puis là, je vois que Saint-Roch recommence à être un peu plus magané. Les services qui leur sont offerts à ces gens-là, les gens qu'on appelle des travailleurs de rue, ils sont à quel endroit exactement, tu sais?
Ben, l'essence du travail de rue, puis là, je ne suis pas travailleur de rue, comme on disait tout à l'heure, mais l'essence du travail de rue et des intervenants de proximité, c'est de délocaliser des services pour être directement dans la communauté des personnes, des populations qui sont les plus vulnérables. Donc, autant les travailleurs de rue que les intervenants de proximité qui viennent un peu de partout sont habituellement sur le terrain. L'objectif, la philosophie de l'intervention de proximité, c'est d'être là où il y a un besoin. Donc, de décentraliser les services qui sont dans les grandes institutions puis de les amener vers les gens qui sont à la rue, qui sont pas en mesure de se rendre dans les institutions.
Le
Monsieur
défi Keck, qu'il y a,
c'est-tu moi qui vois trop grand? Je trouve ça inacceptable de les laisser dans nos rues comme ça, dormir par terre. Tu sais, c'est mon grand rêve, ce serait d'avoir un endroit pour ces gens-là, comme on pouvait avoir dans le temps, pour qu'ils puissent avoir un abri avec des gens qui sont là autour pour s'en occuper, puis nourris trois fois par jour. Puis si jamais ils veulent sortir dans la population, ben on s'assure qu'ils ne se couchent pas dans le milieu de la rue pour dormir.
Ben, tu sais, puis c'est ça, ça peut donner l'impression que, il y a plus de monde, il doit avoir moins de services.
Ouais.
C'est le contraire, en fait. On n'a jamais eu autant de services qu'on a présentement. Tu sais, donc, il y a vraiment eu du développement qui s'est fait beaucoup pour réagir face à la situation. Mais tu sais, vous parlez des condos, là, dans Saint-Roch.
Oui.
Ben, déjà, juste condos dans Saint-Roch.
Oui.
Tu sais, il y a 15-20 ans, là. On parlait pas de condo dans Saint-Roch, on parlait de logements.
Moi, j'étais puis sur du Roi et de la Reine, j'ai fait un peu Saint-Vallier aussi, puis c'était des beaux logements vieux, ancestraux, qui étaient vraiment pas chers.
Vraiment pas chers, puis des fois qui avaient besoin d'un peu d'amour quand même aussi, hein, c'est ça. Mais c'était du locatif, puis c'était du locatif abordable. Puis là, quand on pense au quartier, là, on se remonte en arrière, là, une quinzaine d'années, là. C'était quoi les quartiers locatifs abordables? Saint-Roch, Saint-Sauveur, Stokane, Limoilou, tu sais, on était tous dedans. Là.
Ouais.
Puis là, après ça, tu avais la périphérie où ça se développait un peu plus. C'était un peu plus tranquille, mais ça dépendait. T'sais. Puis là, tu peux avoir de tout dans ces quartiers-là. Ce qu'on trouvait aussi beaucoup, tu sais, moi, mettons, là, dans mon passé d'intervenant, là, ce qui nous indignait un peu comme situation, c'est-à-dire on accompagnait des gens dans leur logement, puis on disait, ça a vraiment, tu sais, au niveau salubrité, entretien, on parlait beaucoup de logements abordables et de qualité, mais le de qualité, là, c'était le gros enjeu souvent auquel on voulait s'attaquer. Là, maintenant, là, ben, on est juste content que le monde ait un toit sur la tête. Là.
Oui.
Puis, tu sais, quand on parle de logement abordable, dans le temps, là, le barème logement abordable, là, je vous le mets bien, bien rough, là. C'était 100 $ la pièce. Vous devez avoir connu ça.
C'est ça. Ben aussi, moi, à peu près... j'étais au-dessus de l'épine Écloutier, à côté de l'Aubrivière.
Oui.
Puis, c'était 350 chauffés éclairés par mois.
Mm. Abordable, ben, maintenant, ça peut ressembler à quoi?
Bien, le barème abordable, c'est 1 000 $ par mois.
Okay.
Puis pas chauffé,
est-ce
pas éclairé.
Est-ce que quelqu'un sur l'aide sociale est incapable de se payer?
Ben non, c'est là, tu sais, prenez-moi pas au mot, là, mais c'est à peu près ça, là, 829 $ par mois, là, l'aide sociale actuellement.
Ça, c'est quand ils sont pas en mesure de travailler ou...
Non, ça, c'est ceux qui sont en mesure de travailler. Avec une restriction à l'emploi, là, ça peut monter là, 1 200. Là, Anthony a peut-être plus les chiffres à jour que
ça,
moi.
On peut parler autour de 1 200, mais encore, quand on parle d'une contrainte temporaire, par exemple, je travaillais, je me suis blessé ou je vis un enjeu, une dépression, un enjeu de santé mentale qui est davantage transitoire, bien là, on va être autour de 900 quelques dollars par mois. Okay. Ce qui est encore loin d'un revenu suffisant pour se payer un logement à un prix standard.
Fait que c'est ça la réalité que, dans laquelle on est. T'sais, on a l'impression peut-être qu'il y a moins de services qu'il y en avait auparavant. Il faut développer des services. Mais moi, j'ai le goût de vous dire, ce qu'il faudrait qu'on arrive à retravailler dans notre filet de sécurité actuel, là, c'est de trouver des places en logement pour nos plus défavorisés dans la société actuellement.
C'est parce que c'est ça que j'allais dire, Frédéric, c'est qu'à un certain point, on a des services, mais les services sont submergés, si je ne me trompe pas, du moins c'est ce qu'on entend. Là.
Ouais.
Au final, ça revient un peu au même, j'ai l'impression. On en manque de
c'est
services.
C'est qu'on en développe, mais il y a plus de gens qui arrivent avec des besoins.
Fait qu'on s'en sort pas.
Bien, tu sais, je vous dirais pas qu'on s'en sort pas, parce que je pense qu'à quelque part, collectivement, on s'améliore, puis il y a vraiment du monde qui travaille très, très fort pour accompagner les gens. Là. Tu sais, puis Anthony et son équipe en fait partie. Mais je pourrais vous nommer toute une multitude d'organismes communautaires là, qui se donnent cœur et âme là, pour être sûr que ça marche puis pour répondre à l'affluence des gens qui arrivent. Mais la particularité, puis c'est tu sais, le but un peu aujourd'hui, c'était de faire le parallèle là, dans le temps versus maintenant, comment ça a évolué et tout ça. Là. Mais ça fait 15 ans qu'on a le même discours de « Hey, le visage des gens qui se présentent dans nos services change. » Mais est-ce que ça change tout le temps? Puis, bien, à chaque fois qu'on pense que, ah, mais là, on pensait jamais que ce profil-là de population arriverait davantage, bien, il y a toujours un autre groupe de population qu'on pensait qui était à l'abri, qui finalement ne l'est pas. Puis, tu sais, dans les nouvelles réalités qu'on voit de plus en plus, puis, tu sais, Éric Boulay de Lauve-Rivière en parle souvent aussi, c'est, bien, là, maintenant, il y a des travailleurs qui viennent chercher des services, là.
Ouais.
C'est que puis là, ben, ils viennent pour la soupe populaire.
On
avait
la bouchée généreuse, nous, quand on est allé faire un petit tour de bénévolat. Là, et j'ai remarqué des gens en me disant « Hey, tabarnouche, ça pourrait être mon voisin. » C'est dans le sens qu'on a une vision des fois des gens qui sont dans la rue ou des gens qui sont peut-être un peu moins nantis. On dirait qu'on a peut-être une mauvaise vision d'ailleurs, mais on a une image. Tandis que maintenant, c'est des gens qui semblent bien normal, qui travaillent souvent à temps plein et puis qui ne s'en sortent pas malgré ça. Là.
Le milieu de l'itinérance n'est pas épargné par ça. Hein. Justement, on disait que le phénomène prenait de l'ampleur, mais le visage des gens qui se retrouvent en situation d'itinérance, bien, il y a une multitude de personnes avec différents profils, différents bagages qui se retrouvent en situation d'itinérance. Avant, on pensait à la personne qui consommait, qui se retrouvait, bon...
Qui faisait des mauvais choix de vie.
Qui faisait des mauvais choix de vie. C'est ça, on a toujours, dans le langage populaire, on a toujours cru que c'était des gens qui faisaient le choix de se retrouver en situation d'itinérance et d'aller consommer. Aujourd'hui, ben quelqu'un, je lisais récemment un article qui disait qu'on est à 3 événements de se retrouver en situation d'itinérance. Bon, c'est un peu un raccourci pour dire qu'un peu n'importe qui, dans certaines circonstances de vie, pourrait se retrouver avec des difficultés majeures et éventuellement se retrouver en situation d'itinérance. Donc, actuellement, on voit des gens qui ont été fonctionnels toute leur vie, qui ont peut-être perdu un emploi, dans le phénomène de la crise du logement, qui n'a plus de logement abordable, séparation, des antécédents de consommation qui peuvent ressurgir dans des moments difficiles. En fait, c'est un peu c'est là où on dit personne n'est vraiment épargné.
Puis les organismes, comment ils s'en sortent, Anthony? Parce que tu fais le pont avec ces organisations-là dans la Ville de Québec qui essaient d'aider ces gens-là. Là. Si on est au coup puis qu'on est déjà plein...
Les organismes sont excessivement contingentés à l'heure où on se parle. Chaque jour, il y a des nouveaux visages qui se présentent. Il y a des gens qui reviennent parce que l'itinérance, il y a des gens qui, de façon épisodique, revivre des difficultés, vont se retrouver de nouveau dans les ressources communautaires. Mais il y a aussi des gens qui se retrouvent subitement en situation d'itinérance, alors qu'ils ont été fonctionnels pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ces gens-là, on essaie de les capter rapidement pour les sortir, pour éviter la chronicisation de l'itinérance. Mais en même temps, le défi, c'est de travailler sur tous les fronts. Fait que de ne pas oublier non plus la personne qui est peut-être là depuis 5 ans, 10 ans et qu'on voit se détériorer. Donc, le défi en ce moment, c'est de vraiment travailler sur tous les fronts, de pouvoir accompagner autant la personne qui est en difficulté majeure depuis longtemps que la personne qui se retrouve subitement en situation d'itinérance pour éviter de la voir se détériorer aussi. Okay.
Est-ce que, ça va paraître être une question bien bizarre, M. Keck, là, mais est-ce qu'on a le droit de contraindre physiquement quelqu'un à aller se faire désintoxiquer?
Non.
On n'a pas le droit de le faire. Fait qu'on prend un itinérant, il n'est plus là pantoute, il représente un danger pour lui-même, peut-être même un danger pour la société quand il est intoxiqué, il peut être parfois agressif. On n'a pas le droit de dire, toi, ça fait trois fois qu'on t'avertit, là, tu t'en vas en désintox 30 jours. On n'a pas le droit de faire ça.
Non, mais tu sais, l'idée, là, mettez ça à l'inverse, là. Toi, mettons là, que tu files pas bien.
Ben, si c'est puis, un suicide à petit feu que je suis en train de faire, M. Keck, ben, j'apprécierais qu'Audrey dise, Yann, toi, là, je t'amène à Robert Giffard, tu vas aller te faire soigner.
Mais, tu sais, cette limite-là, elle existe. Mais c'est une nuance qui est... puis, tu sais, c'est possible. Là. Si on voit que vraiment là, quelqu'un là, est dans une dynamique suicidaire, ben, plus ou moins avouée, puis que là, ben, on est vraiment préoccupé pour sa santé, elle est rendue très avancée dans... Ben oui, là, c'est sûr, là, il y a toutes les questions d'aptitude qui peuvent être mises en question, il peut avoir un arrêt d'agir, il peut avoir toutes sortes d'éléments comme ceux-là. Mais l'idée, en arrière de, oui, mais quelqu'un qui ne veut pas s'aider, on peut-tu le forcer à s'aider? Parce que c'est un peu ça hein, qui est en arrière de la question.
Parce que c'est un suicide à petit feu.
Bien, c'est ça, mais cette limite-là, là, est quand même, c'est une
mesure. C'est
les droits
qui rentrent
là-dedans aussi. Ben oui, mais c'est une mesure d'exception. Là. Moi, le jour où quelqu'un va me demander de rentrer à Robert Giffard contre mon gré, là, il est mieux de s'attacher, là. Puis il est mieux d'avoir des vraiment très, très bons arguments légaux pour justifier ça. Puis je suis sûr que ce serait pareil pour toi ou pour un de tes proches. Donc là, la question, c'est de dire, ben OK, c'est quoi la limite acceptable dans tout ça? Puis ben, tu sais, je pense qu'il y a... peut-être de quoi à réfléchir aussi autrement sur c'est quoi les... parce qu'on revient souvent sur la dépendance, hein? Puis là, on fait l'amalgame entre la dépendance puis la rue. Puis on a souvent tendance à penser que les habitudes de dépendance mènent à la rue. Savez-vous quoi? Il y a 15-20 ans, là, c'était excessivement vrai. C'est clair, là, parce qu'il y avait un filet de sécurité logement que même si tu étais un consommateur actif, puis tu étais quand même capable de te loger. Puis souvent, ben, c'était quand tu avais usé vraiment toutes tes stratégies logement que tu te retrouvais à la rue. Donc, la dépendance venait vraiment à la rue. Mais l'amalgame qu'on voit de plus en plus puis qui est méconnu, c'est que la rue mène à la dépendance aussi. Puis c'est le phénomène inverse. Puis tu sais, j'ai le goût de vous dire, là, peut-être pour des auditeurs aussi, là, tu sais, quand on vit une mauvaise semaine, là, parce que tu as une mauvaise nouvelle à la job, parce que tu es en conflit avec ta conjointe, peu importe, là, ben tu dors moins bien, tu consommes plus d'alcool, en général. Puis là, ben je parle pas de population, je parle de moi, là.
Ah non,
je parle
de vous autres aussi. On mérite le verre de vin, là. Ben on oui, se dit, ah, ça va être une grosse semaine, me prendre un verre, là.
T'sais. Ben, c'est ça. Puis j'avais dit pas avant vendredi, mais sais-tu, là, avec la journée que j'ai eue aujourd'hui, on va s'ouvrir une bouteille.
Eux autres, c'est la même chose.
Ben, c'est un peu cette logique-là, mais dans la situation critique, là, le toit, tu as eu une mauvaise semaine, mais tu as encore un toit sur la tête, ta famille est encore là autour de toi, tu as un réseau social quand même, puis des amis qui sont là, qui peuvent te soutenir. Quand on est dans une situation de rue, comme on rencontre, là, puis qu'Anthony rencontre avec ses collègues sur le terrain, eux autres sont rendus beaucoup plus loin là, dans la mauvaise semaine. Là. C'est rendu un mauvais mois, une mauvaise année.
Mais
puis,
le pire,
il y a un défi
là,
de...
j'arrive à comprendre parce que honnêtement, c'est plate demain, mais moi, demain matin, mettons, là, séparation, pas capable de me payer un logement parce que ça faisait bien à deux, mais tout seul, pas possible, puis que je me ramasse dans la rue. Là. Probablement que par la peur, l'inconfort... Là, probablement que je finirais par me geler parce que le temps passerait plus vite puis que je me rendrais pas trop compte de ce que je vis. Puis là, ben, ça mène à une dépendance. Puis j'arrive à comprendre complètement ce genre de situation.
Puis malheureusement, c'est ultra disponible sur la rue. Tu sais, il y a même là, dans certaines formations, puis entre autres pour les travailleurs de rue, ils le testent aussi. C'est-à-dire, bien, tu sais, avec les jeunes travailleurs de rue qui souhaitent commencer en travail de rue, là, ça se faisait beaucoup dans mon temps aussi. C'est-à-dire, vous allez passer une semaine sur la rue, ben, pas une semaine, une soirée sur la rue, là. Puis lâchez votre porte-monnaie, vos clés puis votre cellulaire, là. Puis allez faire un tour. Puis essayez de vous débrouiller à soir. Puis après ça, dites-moi comment vous avez vécu ça.
Tu peux être sans ressources là, assez rapidement.
C'est excessivement déstabilisant. Puis on réalise pas à quel point on se sent vulnérable dans ces situations-là. Parce que quand tu sais, je suis pas... moi, je vais sortir d'ici, je vais me lever tantôt, là, je vais checker mon cellulaire, mes clés, mon portefeuille. Je fais tout le temps ça un peu partout parce que j'ai besoin de ces trois morceaux-là tout le temps. Puis s'il me manque un de ces morceaux-là, ben après ça, il faut que je refasse tout le chemin de ma journée. Mais quand tu n'as aucun des trois, là, ben tu fais comment là, pour te débrouiller? Ça fait que, tu sais, c'est cette logique-là que, tu sais, il faut comprendre le niveau de précarité dans lequel les gens se retrouvent. Est-ce même pour Anthony, des fois, rejoindre les personnes. Puis dire, hey, écoute, on pourrait vraiment t'aider. Là. Viens nous voir. Là, puis demain, on va aller faire un tour à tel organisme puis on va essayer de faire des démarches avec toi. Oui, mais je ne sais pas où je dors à soir. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais manger tantôt. Ça serait bien que...
Tes priorités ne sont pas les mêmes.
Bien, tes priorités ne sont pas les mêmes, c'est ça. Puis là, ben, la dynamique dans laquelle on se retrouve, c'est qu'il y a de plus en plus de gens, en fait, qui se retrouvent à risque de cette situation-là. Puis j'ai le goût de vous faire d'autres parallèles aussi. Tu sais, on voit de plus en plus de jeunes couples, tu sais, jeunes vingtaines, qu'ils vont s'embarquer dans des dettes assez solides quand même aussi, parce que justement, tant qu'à payer 1 000, 1 500 pour un loyer, bien, ils vont s'engager, mettons, sur une dette pour une maison. Mais là, une maison, tu sais...
Faut travailler.
Puis ça te prend... Tu sais, une maison, maintenant, c'est quoi? C'est 300 000 là, à peu près, là, pour avoir de quoi? Puis là, t'es pas au centre-ville, puis t'es pas dans...
On est 350, 400.
Ah, ouais, 400.
Ben, c'est ça. Tu sais, ça fait que... Mais là, jeune professionnel, là.
Ouais.
OK. Fait que là, t'es en couple, là, parce que là, tu sais, à deux, on va y arriver, mais tout seul, y arriverait pas. Là, tu vis une séparation, là-dedans. T'as ta dette, t'as ton... Ben, OK. Puis là, c'est quoi ton option? T'as une dette.
Vendre la maison.
Vendre la maison, mais là, tu vas-tu faire de l'argent ou tu feras pas d'argent?
Actuellement, vous allez faire de l'argent.
Bon, mais tant mieux si c'est le cas. Mais là, après ça, c'est de dire, OK, mais il faut que tu te reloges après.
Exact.
Mais là, tu te reloges tout seul.
Fait que là, le loyer qui était, mettons, l'hypothèque qui était à peu près de 1 000 $, là, tu te retrouves avec un loyer d'à peu près 1 500, 2 000.
Les trois étapes là, que disait Anthony tantôt, là, écoute, ça, c'est la première. Là, après ça, si tu as un environnement familial qui est plus précaire, puis peut-être une tendance à t'aimer faire le party. Jusqu'à date, c'était drôle, c'était le party. Mais que là, le party, finalement, ben, c'est, ça devient plus juste la fin de semaine, mais ça devient 3-4 fois par semaine, parce que, puis 5 fois par semaine, puis parce que tu trouves ça difficile ce que tu vis. Tu peux pas vraiment t'appuyer sur des gens.
Ah, tu plonges.
Ben, puis là, après ça, ben, troisième étape, ben, c'est la perte de ton emploi, parce que là, tu es tout le temps sur le party, ça marche pas.
Y a-tu de la...
ça va vite, là.
Y a-tu de la place pour loger tout le monde à Québec, ces itinérants-là? Est-ce qu'on a des endroits où ils peuvent aller dormir le soir en toute sécurité, hommes comme femmes? Puis je sais pas pourquoi j'ai une petite sensibilité du côté des femmes, mais j'ai passé à côté
à
côté du YMCA, puis il y avait 2-3 filles qui étaient là, qui étaient maganant, maudit. Je me suis dit, c'est sûr, eux autres, que ces filles-là doivent vivre l'enfer. Y a-tu de la place pour aller dormir chaque soir en toute sécurité?
J'aimerais pouvoir te répondre oui. Là, on travaille fort, en fait, pour développer des alternatives pour tout le monde.
On ne peut pas avoir dortoir pour eux autres. Un dortoir homme, un dortoir femme. Tu sais, non, c'est 200 personnes, 300 personnes actuellement.
Mais on en a. Le défi qu'il y a, c'est qu'il y a... Il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent, donc les besoins augmentent.
Ouais.
Puis là, on a commencé à travailler sur des mesures de répit, surtout pendant l'hiver. Là. Parce que l'hiver, tu sais, avec le froid, il y a comme une autre coche là, qui s'ajoute dans le niveau de risque. Mais le répit, là, c'est, dans le fond, c'est des salles, tu sais, sécuritaires où le monde peut venir se réchauffer. Puis mais tu sais, t'as pas de lit là, t'as pas nécessairement de... Tu sais, mais l'idée, c'est qu'au moins, il y a du monde qui sont capables de venir se sécuriser pour la nuit, pour une portion. Bon. Puis là, après ça, ben, on travaille sur l'hébergement aussi. Là, on a l'hébergement d'urgence, l'hébergement transitoire, puis le logement. Là, ce qu'on essaye de travailler comme stratégie, là, c'est-à-dire qu'il faut qu'on aide le milieu communautaire, puis il faut qu'on aide le milieu de l'habitation. Puis là, nous, on est le réseau de la santé. Hein, ça fait drôle là, de dire ça. Mais on est comme réseau de la santé. Là, nous, on est extrêmement préoccupés de ce qui se passe dans le réseau de l'habitation actuellement.
Avec raison.
Parce qu'on voit l'impact que ça a sur nous. Puis on fait comme, ouais, mais là, attends un peu. Là, moi, je peux bien développer des services, là, mais je ne serais pas toujours capable de répondre à la vague qui pourrait arriver.
Les
là.
Budgets ont-ils toujours augmenté ou ils ont diminué dans les dernières années?
Ils ont toujours augmenté. On est passé, là, si on remonte là, il y a 15 ans, là, en itinérance, là, c'était 2,3 millions de budget qu'on avait là, en 2005, 2000.
Cet argent-là,
maintenant, on est à, mettons, 15-16 millions. Là.
Cet argent-là, se rend-tu direct aux itinérants ou ça passe en salaire, ça passe en subvention?
Ça passe beaucoup, beaucoup en soutien aux organismes communautaires. Fait que tout ce que je te dis là comme budget, là, c'est quasiment exclusivement en soutien aux organismes communautaires. Donc, pour du développement de services, puis pour, oui, de l'hébergement, mais oui, pour des intervenants, des travailleurs de rue, entre autres, pour du dépannage alimentaire, pour du dépannage vestimentaire, puis pas juste pour des services au centre-ville, parce qu'on veut pas, tu sais, on a besoin aussi que ce soit plus large. Tu sais, puis là, ben, tu parlais de la réalité des femmes, mais il y a la réalité des jeunes aussi dans le passage à la vie adulte, il y a la réalité des personnes âgées. C'est tous des éléments qui sont préoccupants. Là,
je veux pas paraître insensible, M. Keck. Là. C'est juste que y a des gens qui me rapportent des trucs des fois, puis je me dis, ça me prend des réponses. Fait que je vais vous poser ces questions-là. Ça se peut-tu que Québec et Montréal soient rendus un resort pour les itinérants? Puis c'est la raison pour laquelle les itinérants, d'ailleurs, transitent vers chez nous, parce que tous les services sont là pour eux autres.
Je dirais pas, Anthony, la question.
J'imagine que vous avez vu l'article passer. Ils en ont un peu parlé.
La question est bonne parce qu'il y a quand même eu pendant. Il y a encore aujourd'hui une espèce de phénomène d'immigration dans l'itinérance.
Exact. L'été, des gens de Gaspésie qui descendent à Québec.
C'est ça. La réalité aujourd'hui, j'ai pas vraiment de données là-dessus. Par contre, il y a des gens qui viennent ici parce que oui, il y a des services et il n'y en a pas en région parce qu'on ne rejoint pas suffisamment de monde en région. De là à croire que c'est un tout inclus de venir vivre ici à Québec en situation d'itinérance, je dirais qu'on est loin de là quand même. Parce que oui, il y a des services, mais comme on disait tantôt, les services sont excessivement contingentés. Mm-hmm. Aujourd'hui, en fait, quelqu'un qui bascule en situation d'itinérance, il y a de fortes chances qu'il soit littéralement sous le trottoir. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas que la journée où il se retrouve en situation d'itinérance, qu'il n'y ait pas un hébergement fixe là, pendant un mois, deux mois, trois mois pour avoir la chance de se revirer de bord. Il y a de fortes chances qu'il soit confronté en fait à une surpopulation dans le centre-ville, surtout ici à Québec.
Comme à Montréal aussi.
Même à Montréal aussi, évidemment.
Mais on en voit de plus en plus, même à Trois-Rivières, c'est épouvantable comment ça a explosé. Si on parle de Québec et Montréal, là, mais...
Mais c'est partout. Puis ça, je peux vous dire, tu sais, le phénomène, il n'est pas propre à la région ici. Là, il est provincial. Puis je suis sûr même, tu sais, au niveau pan-canadien, là, ça évolue quand même.
As-tu les chiffres du recensement?
Non, mais pas encore. Là, il y a tout un délai de traitement là, ouais. Par rapport à ça pour éviter les doublons et tout ça. Mais dès qu'on va les avoir, on pourra vous refaire un topo là-dessus. Mais tu sais, juste revenir vite, là. Ouais. Tu sais, on parle de Trois-Rivières ou de... Mais tu sais, Charlevoix, Portneuf, la côte de Beaupré,
l'île d'Orléans aussi.
Ben oui. Mais en fait, ce qu'ils vivent là, plus davantage, c'est de l'instabilité résidentielle. Fait qu'ils ont des gens qui jusqu'à présent arrivaient à se loger, puis là, tout d'un coup, ils n'y arrivent plus. Puis là, OK, mais je fais quoi? Puis ben dans des secteurs comme ceux-là, ben d'ouvrir un refuge pour les volumes de population qu'ils ont avec des services 24/7 puis tout, c'est pas réaliste. Fait que forcément, ils reviennent davantage vers les centres-villes. C'est là que sont les services avec intensité. Là, ce qu'on essaye de faire, ben, c'est de voir comment est-ce qu'on peut soutenir ces milieux-là dans le développement d'initiatives qui répondraient à leurs besoins propres. Sans nécessairement ouvrir des refuges, on peut-tu donner des loyers de dépannage temporaire? On peut-tu travailler avec des acteurs locaux pour maintenir du logement abordable ou faire de l'hébergement transitoire? Y a-tu des éléments qu'on peut travailler avec les acteurs sur place? Puis le monde sont hyper créatifs, là. C'est ça, tu sais... Ça peut vous sembler pessimiste, là, t'sais, un peu le portrait qu'on fait là, de la situation actuelle, là, mais soyez assurés là, qu'il y a du monde qui sont hyper engagés pour trouver des solutions.
Non, puis j'en doute pas, mais vous faites partie de ces gens-là.
Puis ça reste un peu dans l'ombre aussi, parce que t'sais, le monde, ils font pas ça pour bien paraître, ils font ça pour servir des gens qui voient dans le besoin.
Est-ce que, je vais avec des préjugés, rouvrir Robert Jouffort, ça pourrait-tu aider?
Bien, Robert Gifford, c'est l'Institut universitaire en santé mentale, c'est dans le CIUS maintenant. Ouais. C'est encore ouvert, là. Robert Gifford, ça
comme,
roule encore.
Comme c'était avant, moi j'étais un vieux bonhomme, là. Ouais. Je me souviens qu'il y avait Robert Gifford qui était là, tous les soins étaient donnés là. Il y en a qui pouvaient rester à l'intérieur des murs pour se protéger et protéger les autres. Puis il y en a d'autres qui avaient des sorties. Nous autres, on avait Meloche, là. Je ne sais pas si vous l'avez connu à l'époque, mais il venait nous jaser puis nous demandait notre date de fête. Puis là, 6 mois plus tard, on le revoyait. Puis on demandait, mais là, je sais quoi, ma date de fête? Puis là, il disait, toi, c'est telle date. Il s'en souvenait. Tu sais, puis on côtoyait ces gens-là, ça avait l'air à bien aller. Mais il est en sécurité. Là. On dirait qu'ils n'ont plus de place pour se sentir en sécurité. Puis je reviens à ces femmes-là qui étaient à côté du YMCA. Il pleuvait, fait qu'ils étaient comme en dessous pour se protéger de la pluie. Ces femmes-là doivent vivre l'enfer dans la rue. Parce qu'il y a de la drogue, bien entendu, mais il y a des hommes qui savent même plus ce qui est correct de faire et ce qui ne l'est pas. Ils doivent constamment se faire achaler. Il faut les protéger.
Oui, mais là, tu sais, mettons, pour ces femmes-là, la solution, c'est pas l'Institut universitaire en santé mentale. C'est le parallèle, il faut faire attention.
Mais je parle plus d'un gros endroit où on peut toutes les accueillir avec tous les services qui sont à l'intérieur là. Puis tout dépendant de des besoins de la personne, on peut l'aiguiller à l'intérieur de la bâtisse. C'est comme si Robert Jouffort c'était dans le temps.
Bien, c'est ça. Mais le Robert Jouffort, c'était beaucoup axé sur la santé mentale puis la santé mentale grave. C'est un peu dans le profil que tu décris. Dans cette perspective-là, tu sais, avec tout ce qu'on vient de se nommer tantôt, pas ça, les besoins là, actuellement. Là. Puis, tu sais, des fois, les gens, on fait l'amalgame des gens dans la rue. Oui, mais on voit bien, ils vont pas bien. Là. C'est sûr qu'ils ont des problèmes de santé mentale.
Ouais.
Bien, c'est un peu la même affaire qu'avec la toxicomanie, tantôt que je vous disais. Là. Passez un mois dans la rue, vous allez voir.
Par exemple, c'est un autre pan, mais il y a des gros enjeux de santé mentale aussi qui ne sont pas réglés, par exemple, au Québec. Là.
Parce que quand on parle avec les policiers, M. Keck, c'est 80 % des interventions au centre-ville de Québec qui touchent la santé mentale. Les policiers ne sont pas formés comme vous. Là. Eux autres, ils veulent faire leur job, ils veulent faire le bien, ils veulent éradiquer le mal. Mais quand ils arrivent avec un itinérant ou quand ils arrivent avec quelqu'un qui est aux prises avec la drogue, avec des problèmes de santé mentale, sont un peu dépourvus, nos policiers. À un moment donné, il faut qu'il y ait une job qui soit faite. Puis vous la faites. Vous semblez travailler extrêmement fort pour que ça se règle, mais visiblement, année après année, il y en a de plus en plus.
Oui, puis tu sais, là, il y a plein d'éléments là, dans ce que vous avez amené. Là. Fait qu'on peut les prendre un par un, mais si on part par les derniers, là, au niveau des services de police. Tu sais, les services de police ont beaucoup évolué aussi là, dans leur manière de travailler les choses. Là. Il y a 15-20 ans, là, les services de police ils étaient dans une approche répressive.
C'était rough, ouais.
C'est ça. Puis, tu sais, c'était des campagnes de tickets. Puis ça finissait par de la détention. Là, maintenant, on est ailleurs. Là. Puis là, les services de police, entre autres le SPVQ, a une équipe multi qui est dédiée, mettons, aux enjeux plus du centre-ville, mm-hmm. puis aux enjeux liés à l'itinérance. On travaille vraiment étroitement avec eux autres sur une base régulière. Puis, tu sais, tous ces enjeux-là, on en parle. Là, après ça, l'amalgame santé mentale, ben oui, c'est sûr, là, il y a beaucoup de gens là, à la rue qui ont des problèmes de santé mentale. Il faut faire la nuance entre des problèmes de santé mentale, tu sais, je vous dirais génériques, des problèmes de santé mentale graves, là, qui sont plus de l'ordre de la schizophrénie ou des troubles bipolaires. Là. Ouais. C'est pas la même affaire. Là. Mais après ça, des gens qui sont extrêmement anxieux, des gens qui se parlent tout seuls, des gens qui ont des très, très grands symptômes dépressifs, des gens... Ben oui, là, tu sais, ça existe là, sur la rue, pour toutes les raisons qu'on s'est nommées tantôt. Sur la réalité plus particulière des femmes, ben, tu sais, l'idée, là, c'est qu'on est moins dans l'idée d'un immense centre de services pour répondre à tous les besoins, puis je vais y revenir tantôt, parce qu'on a quand même de quoi qui se travaille dans nos cartons dans cette perspective-là. Mais il y a aussi plus la perspective de, ben OK, il y a tellement de profils différents que ça nous prend plein de petits services adaptés aussi là, pour nous permettre de répondre à cette pluralité-là des profils de personnes. Pour les femmes, là, il y a un organisme extraordinaire qui existe à Québec qui s'appelle le Projet Lune. Si jamais un jour ça vous tente de les recevoir, là, vous avez déjà reçu. Écoutez, ils sont en plein cœur de Saint-Roch. Puis je suis sûr que les femmes que tu disais que tu as croisées là, je suis sûr qu'ils connaissent la ressource.
C'est une maison d'hébergement?
C'est une maison d'hébergement pour femmes. Puis c'est vraiment dans une dynamique de grande marginalité au niveau de la rue, puis pour les femmes, très, très vulnérables. Fait qu'il y a quelque chose là, tu sais, ça fait que c'est le genre de mesure qu'on dit « Hey, ça peut être intéressant ». Sur l'idée d'un centre de service plus générique, puis là, ben, je finis là, c'est juste parce que tu me lances trop d'idées en même temps. Là. Fait que là, il faut que je les prenne une après. C'est bon, c'est ça. Tu sais, il y a le projet du 14 Côte du Palais. Justement, tu étais pas mal au centre-ville, l'ancienne armée du salut qui était en face de l'Hôtel Dieu.
Ouais.
C'est un bâtiment qu'on a racheté pendant la pandémie.
C'est un ancien service d'hôtellerie pour hommes.
Oui, puis on a fait, pendant la pandémie, c'était un centre de convalescence. Vous vous rappelez des centres de convalescence?
Oui. Ça,
c'est pour les gens qui avaient la COVID et qui n'avaient pas de place où aller. Il y avait le Concorde, puis il y avait l'Armée du Salut, qui étaient nos deux centres de convalescence. C'est nous autres qui opérait ça. C'est dans cette époque-là qu'on s'est connus. D'ailleurs, davantage Anthony puis moi aussi. Puis c'est Anthony qui a commencé à travailler plus avec nous autres dans cette période-là. C'est super intéressant ce qu'on a découvert avec le centre de convalescence. C'est qu'il y a plein de monde qui nous ont été référés. Puis on a des équipes, tu sais, plein de gens qui étaient libérés de nos intervenants aussi. Puis on s'est dit, ben écoute, on va profiter, on va faire d'une pierre deux coups, là. Quand c'est plus calme pendant la pandémie, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens qui sont dans la rue actuellement.
Exact.
Peut-être travailler différent sur ces profils-là qui sont un peu plus lourds puis qui ne veulent pas toujours venir vers nous, mais là, on a l'occasion d'aller vers eux autres. Fait que là, le projet de l'Armée du Salut, on en fait un centre multiservice, là. C'est ça l'idée. On va trouver un nom plus cute que ça, là. Mais ce qui va arriver là-bas, c'est que c'est plein de services dédiés à l'itinérance, puis des services spécialisés. Puis le monde va juste pouvoir se pointer à la porte. C'est l'idée du No Wrong Door. Il faudrait trouver un nom en français pour ça. Mais c'est l'idée de tu te pointes à la porte, puis après ça, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour toi. Puis tu te pointes pas à l'hôpital, tu t'en vas pas à l'urgence, tu t'en vas pas à Robert Giffard. Parce que Robert Giffard, on a beau dire, là, si tu proposes aux gens de la rue, ça te tente-tu d'aller faire un tour à Robert Giffard, je te jure qu'il n'y a pas beaucoup de volontaires. parce que tu sais, il y a l'image justement de l'ancien hôpital psychiatrique qui est très présent.
J'y étais, ils m'ont envoyé là pour me faire poser un halter pour le cœur.
Ben oui, ben
pour
c'est
écouter mon cœur. Puis je savais pas que c'était rendu là, mais pour moi, Robert Schwarz, c'était l'institut où les gens qui avaient des problématiques allaient. Puis là, quand ils m'ont dit, vous devez aller chercher votre halter là, je me disais, t'as peu, là, ils vont-tu me garder?
Ben, est-ce qu'ils essaient de me prendre?
C'est mais... une technique pour me garder.
Imagine ta réaction à toi quand t'as peut-être déjà eu une mauvaise expérience aussi, où t'as peut-être été conduit à Robert Gifford. Ouais. Sous motif légal, sans que ce soit ton souhait.
Ouais.
C'est pas le fun, ça.
Non, sûrement pas. Monsieur Vaillancourt, Monsieur Keck, dans les prochains mois, les prochaines années, vous voyez comment votre travail, ça va-tu s'améliorer? Ce qui se passe pour nos gens qui sont en problématique dans la rue?
J'allais dire ce qu'on veut, c'est de continuer de développer en fait des projets qui sont diversifiés, travailler sur plusieurs fronts. Frédéric parle du 14 Côte du Palais.
Ouais.
C'est à Québec, on parle beaucoup de projets structurants là, pour tout autre thème.
Tu veux un tramway pour itinérant.
mais c'est de développer des projets qui seront davantage structurants où on pourra prendre la personne, l'accompagner de A à Z.
J'aime ça.
Comment on se doit d'agir comme citoyen avec les gens en situation d'itinérance dans la rue? T'sais, on est plein de jugements, là, on en parle depuis le début. On n'osera pas lever la couverte pour boucler la boucle du début de la conversation. Si on voit quelqu'un qui dort dans la rue, souvent, il y en a qui vont changer de trottoir, on ne sait pas si on dit allô. Comment on se doit d'agir pour essayer d'aider la situation?
Moi, je pense qu'il y a deux choses deux éléments qui sont importants. Premièrement, de s'intéresser à la problématique, à la réalité, déjà là, c'est un beau premier pas, comme vous le faites aujourd'hui. J'oserais dire respecter aussi vos limites personnelles. Hein. Si on n'est pas à l'aise, si on est en contact avec quelqu'un qui est agité, si on n'est pas à l'aise, il n'y a pas d'obligation. C'est de respecter ses limites personnelles, respecter la personne aussi, éviter de porter des jugements, évidemment. Si collectivement on pouvait juste s'en tenir à ça, déjà là on a déjà
Est-ce qu'on donne de l'argent? Est-ce qu'on donne de la bouffe?
C'est libre à vous en fait. Ça peut pas nuire. On peut pas, il y a pas de des fois, encore une fois, dans l'image collective, on va dire que si on donne des sous, ça va être pour aller consommer. Rendu là.
Puis tu sais, moi je dirais agir avec bienveillance, là. C'est ça l'idée, un peu dans le même esprit. Là. Même si vous ne donnez pas d'argent, tu sais, vous avez le droit de sourire quand même.
Oui, vous avez le droit de dire bonjour.
C'est ça, puis vous avez le droit de dire bonjour quand même. Donc c'est... le monde apprécie ça. Là.
Je voyais un reportage d'un homme de 70 ans qui maintenant, ça fait quelques années qu'il était dans la rue, j'imagine que vous l'avez vu passer ce reportage-là. Je ne sais pas si c'était à l'écrit ou encore à la télé, mais l'homme, il ne regardait plus les gens dans les yeux parce qu'il n'aimait pas l'image que les gens lui renvoyaient.
C'est ça.
C'est d'une tristesse quand t'entends
ça. Fait,
comme M. Keck mentionne, c'est juste de leur sourire, de leur souhaiter une belle journée.
Ouais. Ça t'enlève quoi, en fait?
Oui, exact. Ça a été un plaisir de vous recevoir encore une fois, messieurs. Vous êtes réinvités dans les prochains mois. S'il y a d'autres initiatives qui sont faites, nous, on est bien intéressés à entendre parler de ça. On parle énormément de la cause de l'itinérance à Québec, à Boulevard, puis c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Puis on a peut-être l'intention dans les prochaines semaines, les prochains mois, de faire quelque chose pour certains organismes du coin. J'en ai pas encore parlé à mes patrons, mais là, ils viennent de le savoir. Fait que, on aura l'occasion certainement de s'en parler.
C'est parfait. Merci l'invitation.
Merci à vous.
Frédéric Keck, directeur adjoint partenariat et itinérance au CIUSSS de la Capitale-Nationale, un ancien travailleur de rue. On avait le plaisir aussi de jaser avec Anthony Vaillancourt, qui est coordonnateur de l'équipe de liaison itinérance au CIUSSS de la Capitale-Nationale. On fait une courte pause. Vous avez des choses à nous dire. C'est le 88-971-1021. 88-971-1021.
Le garage à Dan.
Ah, c'est une belle rencontre avec les gens du CIUSSS de la Capitale-Nationale. On parlait du dossier itinérance au centre-ville de Québec. On s'aperçoit à quel point il y a des gens à Québec qui travaillent fort.
On voit pas ces dessous-là, l'espèce d'effet fourmilière de ces gens-là qui se donnent corps et âme, puis on n'a pas eu le temps de jaser de ce volet-là, mais ça doit tellement être difficile sur le côté émotif parce que tu es dans l'impuissance constamment dans ta job.
Mm-hmm.
Tu sais, il doit y avoir des côtés valorisants, c'est sûr, là, mais... Combien tu es capable d'en réchapper comparé à tous ceux qui veulent rester dans la rue ou qui sont pas capables de s'en sortir? Ça doit être excessivement difficile.
Ouais. Quoi on sert, nous autres?
pas grand-chose, me dire. Ben, elle donne une voix à ces gens-là, tiens.
Ah, tiens, on va bâtir là-dessus. Hey, je te souhaite de passer une belle fin de journée. On t'écoute avec Denis tantôt à 14h et Véro. Sinon, Pascal CV s'en vient dans les prochaines secondes. Moi, je vous pousse dans vos oreilles. Coriace, lendemain sur les zones de Boulevard.